Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes au festival à Tour de Bulle avec le collectif The Neb, en tout cas deux membres du collectif, à savoir Morgan Schmidt-Giordano et Diane Ranville. Bonsoir.
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 Début du festival cette année et projection d'un film, à savoir Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Le thème de cette année pour le festival, c'est la famille. Est-ce que vous avez choisi le film parce que le film vaut le coup d'être vu, ou est-ce que vous y voyez aussi un lien avec le thème de la famille? C'est une famille de vampires un peu spéciale quand même.
Ça serait amusant que ça soit en lien avec la famille, mais c'est vrai que pour le coup, on nous a donné une carte blanche pour l'ouverture du festival et on l'a choisi parce que, ben déjà parce que c'est un film magnifique, et aussi parce qu'on nous a proposé de chercher quelque chose qui nous parlait par rapport à la création de la bande dessinée et que ça fait partie de nos sources d'inspiration.
Ouais, exactement, c'est une des sources d'inspiration de notre bande dessinée La Valise, et donc effectivement c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais c'est assez amusant parce que quand on y pense, il y a une sorte de petite famille de vampires dans ce film qui donne une vision pas forcément classique des liens familiaux, mais qui est assez intéressante.
Il y a aussi une exposition où on peut voir des tirages, donc des illustrations et aussi des planches. Votre travail se fait librement sur, on va dire, la création, le fait d'avoir justement des illustrations, et sinon de travailler du case par case. Vous le travaillez comment? Est-ce que vous avez l'idée de je fais une BD et en plus je fais des illustrations, soit pour me faire plaisir, soit pour les collectionneurs, soit justement pour des expositions, ou est-ce que c'est un énorme bric-à-brac et ça vient au fur et à mesure, façon de parler?
Je dirais que dans ce qu'on présente, en tout cas là dans l'exposition, il va y avoir trois types de tirages, donc des planches qui sont la production de la bande dessinée en lien avec l'écriture du scénario, du découpage, etc. À côté, on va avoir des illustrations originales qu'on a réalisées essentiellement avec pour objectif de monter des expositions, ce qui est un outil de promotion et d'extension de l'univers également. Et aussi des facsimilés, en fait, puisque à la base, on provient pas mal du fanzine en plus de l'animation. Et c'est vrai que créer faire sortir en fait les objets du livre pour les amener en dehors de ces pages, leur donner un petit peu de vie, en fait, ça fait partie des choses qui nous intéressent bien. Donc il y a pas mal d'affiches de propagande. Là, malheureusement, on n'a pas pu les exposer parce que c'est un peu des petits objets, mais on a aussi des affiches. On a le journal qui est écrit par les résistants de notre histoire. Le briseur de mur, on en a créé une page, on a fait un tirage, ce genre de choses.
Ouais, il y a effectivement dans l'expo des affiches. Il y a aussi certaines des images qui apparaissent comme des illustrations qui en fait sont des agrandissements de certaines cases qui sont recadrées, donc qui se retrouvent à être en très grand alors que normalement elles sont qu'une petite partie de la page, donc voilà.
Vous nous en dites un petit peu plus de cette valise?
Alors la valise, c'est donc une bande dessinée qui est née d'abord d'un court-métrage réalisé par Morgan à côté de moi pendant ses études de cinéma d'animation. Donc dans ce court-métrage, il y avait vraiment le concept de la valise, à savoir une femme mystérieuse qui peut mettre des gens dans sa valise magique, une sorte de sac de Mary Poppins, mais dans une version beaucoup plus sombre et une ambiance film noir, en fait. Et donc dans cette ambiance film noir, on va avoir une histoire autour des fugitifs qui empruntent la valise en échange d'un prix assez fort à payer. Donc dans la BD, ensuite, ce qui nous a permis, enfin, après le court-métrage, en fait, on a voulu développer cette histoire en BD pour avoir plus d'espace, en fait, pour développer l'univers, pour développer les personnages et le propos aussi qu'on voulait tenir. Donc voilà, dans l'histoire de la BD, il va y avoir un univers plus étendu avec l'histoire d'une cité qui est sous le joug d'un dictateur et des personnes, des résistants ou des personnes qui veulent fuir cette cité, qui vont, parce que la cité est entourée d'un mur infranchissable, faire appel à Cléophée, le personnage principal, qui est donc une passeuse, mais aussi une sorcière, et qui détient cette valise magique qui va pouvoir faire sortir les gens. Sauf qu'en échange, elle leur demande quelque chose, à savoir 7 années de vie par personne à payer. Donc ça va amener un certain nombre de questionnements sur le temps, ce genre de choses.
Vous êtes parti sur un cycle de combien de volumes? Parce que là, vous tapez dans plein de registres, entre le fantastique avec la sorcellerie, un côté historique qui peut être soit de l'anticipation, soit de la dystopie, des personnages du coup avec plein d'histoires à raconter. 7 ans à chaque fois par personne qui passe. On peut imaginer une série principale, des spin-off dans tous les sens, et c'est le travail de votre vie en fait.
Ça pourrait, mais justement non. Ça, c'est vraiment une histoire qui se tient en un volume, c'était un petit peu le pari. L'idée c'est de laisser l'univers très ouvert. On ne veut pas revenir sur cette histoire-là, donc à la fin de la bande dessinée, il y a un carnet qui va ouvrir, qui va développer un petit peu cet univers étendu et développer sur ses nombreuses questions, mais après c'est au lecteur de faire le travail.
Ouais, voilà, on laisse ouvert à l'imagination. Effectivement, on peut imaginer, Cléophée, le personnage principal, on comprend assez vite, c'est un personnage qui a traversé des siècles, etc. C'est aussi pour ça qu'on passait le Only Lovers Left Alive ce soir, parce que c'est vraiment une source d'inspiration à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un personnage qui a vécu plein de vies, qui pourra en vivre d'autres, mais on souhaite pas forcément s'attarder dessus, on va passer à d'autres scénarios.
C'est aussi tout l'intérêt de la BD, l'histoire se déroule aussi entre les cases.
Effectivement, c'est une bonne remarque, tout à fait. Il y a pas plein d'indices au long de la BD qu'on a semé pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le personnage. Mais après, c'est au lecteur de compléter aussi avec sa propre imagination.
Alors, du coup, c'est aussi pour ça qu'on est parti, une forme de tonalité un peu fable.
Le mot fable, c'est quelque chose qu'on aime bien utiliser pour parler de cette BD parce que on n'est pas dans du réalisme, on est dans un univers qui part presque sur de la mythologie avec beaucoup de symbolique. Donc voilà, c'est
d'interprétation libre.
Ouais.
Dans le film de Jim Jarmusch, la musique est très importante. Est-ce que vous avez pensé à une bande son à écouter en même temps qu'on lirait la valise?
C'est trop vaste. Alors déjà, il y a celle-ci, ouais, parce qu'on l'a écoutée en boucle, mais il y a aussi le travail qui a été fait sur Under the Skin, où il y a une bande-son qui est juste hallucinante et absolument incomparable. Ouais. Je crois qu'on l'a beaucoup trop écoutée aussi, d'ailleurs. Ça nous mettait à l'aise, c'est là qu'il y a un problème à la fin.
C'est une bande-son qui est en réalité assez angoissante,
ouais.
Qui crée une ambiance vraiment spéciale pour tous ceux qui ont vu le film. C'est une expérience assez intense, Under the Skin. Mais ouais, cette bande-son-là, après, il y a des gens qui ont proposé des musiques de Batman,
ouais,
à écouter,
de jeux vidéo
de Batman, Arkane, ouais. Pourquoi pas.
Bioshock, ça le fait bien aussi.
Bioshock.
Dans le genre à l'aise.
Voilà. Psychose,
oui.
Parce qu'une des influences aussi au départ, parce que dans le court-métrage, il y a beaucoup de choses qui se passent au volant de la voiture, et c'était vraiment des images de ce film de Hitchcock qui nous revenaient. Et la musique qui est à ce moment-là, quand elle est dans la voiture, c'est quelque chose qu'on avait pas mal.
Il y a eu ce moment obscur aussi où Gabriel était passé au cœur de l'armée rouge à fond dans l'appartement, histoire que les voisins en puissent plus. Mais
ça, c'est parce qu'il y a un dictateur dans l'histoire.
Ouais, voilà, il y avait des grandes scènes de foule et des choses dans ce genre-là.
Ouais,
je sais pas. Il paraît que ça marche bien d'après lui.
Mais... Je n'ai pas essayé.
Votre partie, c'est quand même pas mal le cinéma et pas mal d'influences d'ailleurs cinématographiques et. Très appréciable. Est-ce que vous auriez chacune une bande dessinée actuelle à nous conseiller ou peut-être plus ancienne si vous avez un coup de cœur ?
En BD, Lock and Key. Parce que c'est juste absolument génialement bien écrit, bien découpé. C'est parfait. Les graphismes sont surprenants et une fois qu'on rentre dedans, ils sont juste géniaux. Donc ouais, Lock and Key, c'est vraiment balèze.
Bah, récemment, L'homme gribouillé.
Oui.
Voilà. c'est du noir et blanc et c'est un gros volume de pages où on rentre super bien parce qu'en termes de vraiment de découpage il y a quelque chose d'extrêmement fluide, très cinématographique là aussi mais dans une version plus posée, pas extrêmement cinétique mais juste vraiment fluide où tout est bien vu, voilà, et en plus on rentre dans une histoire un peu fantastique, un peu étrange qui fonctionne bien.
Ouais, c'est une super leçon de scénario et de découpage.
On va vous proposer 5 accessoires. Vous pouvez prendre un des 5 accessoires que nous allons vous proposer. Vous pouvez choisir entre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les baskets de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau d'Indiana Jones. Vous prenez quoi ?
Du coup, on a le droit à chacune à un accessoire ?
Oui.
Ça commence à devenir balèze. Je vais prendre le chapeau quand même, parce que c'est une fusion entre un borsalino et un chapeau de cow-boy, c'est quand même bien cool, quoi.
En plus, tu voulais être archéologue quand
ouais,
t'étais petite.
Grave.
Voilà. Alors moi, bon, on a rigolé aux lunettes de Clark Kent parce que, ben, en fait, on me compare tout le temps à Clark Kent parce que je suis la seule personne à apprécier Superman, paraît-il, sur Terre, pendant que tout le monde est fan de Batman parce que c'est plus dark et tout ça. Et du coup, ben, je prends les lunettes de Clark Kent. En plus, j'ai des lunettes que je mets jamais. Et dès que je les mets, on me dit Clark Kent. J'aime les chemises à carreaux, donc voilà.
Merci.
Merci à vous.